minutieusement informé, technologiquement outillé, conscientisé aux problématiques de son époque. Philippe-Vincent Foisy. Il expose tous les côtés des affaires publiques. Santé, économie, culture, politique. Peu importe les enjeux, il s'intéresse à tout. Philippe-Vincent Foisy. Cube Radio.
Cube Radio. Jeudi 12 mai, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien parce que il fait beau. Il fait très beau aujourd'hui. C'est notre premier 30 degrés. C'est bien, cette semaine, on a eu le premier 20 degrés. On va aussi avoir le premier 30 degrés. On a ce qui pourrait s'apparenter à quelque chose comme une canicule qui s'en vient du 30 aujourd'hui, demain et samedi avec du beau gros soleil. En même temps, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Parce que quand on regarde les villes, quand on va dans un parc, les feuilles sont pas encore poussées, il y a pas beaucoup d'ombre, les piscines ne sont pas ouvertes aussi. Il y a des experts ce matin qui disent qu'il va peut-être falloir être prêt, il va peut-être falloir s'adapter parce que ça va arriver de plus en plus ce genre de situation. Et du côté de la province, mais on voit que c'est très sec justement parce que cette végétation n'a pas poussé et qu'il y a pas mal d'incendies en ce moment. On parle de 175 incendies qui ont été déclenchés du côté du Québec un peu partout, tous d'origine humaine. Un peu plus tard à l'émission, on va avoir la Sopfeu pour discuter de tout ça. Alexandre Morinville-Ouellet, bonjour.
Bon matin.
Alors, gros dossier dans le Journal de Montréal ce matin. Le gouvernement du Québec avec la Société québécoise d'infrastructure qui a donné un contrat de gré à gré avec une entreprise qui opère un dépotoir illégal et qui est détenue par un proche du crime organisé. La SQI, là, c'est la Société québécoise d'infrastructure qui a offert ce contrat pour enfouir des copeaux de bois, de la terre aussi. Par contre, comme pas fait leur recherche avant de donner le contrat de 33 000 $ le propriétaire, c'est Robert Scopa, qui est frère des mafieux Andrew et Salvador, qui les deux ont été assassinés en 2019. Puis la même entreprise, en janvier 2020, a reçu une amende pour avoir disposé des sols contaminés sur un terrain situé en zone agricole. Donc, dossier à lire de notre bureau d'enquête. Sinon, la violence par arme à feu s'intensifie, se poursuit. Du côté de Montréal, hier, il y a un homme connu des policiers qui est mort dans Saint-Michel, le 9e homicide sur le territoire montréalais. Cet homme devait entrer au pénitencier vendredi. Sinon, à Laval, on a eu les témoignages. Il y a une des deux fillettes qui a vu la scène. Vous vous souvenez, on a parlé de ces balles qui ont été tirées avant-hier en plein quartier résidentiel. Et là, hier, on avait revu ces images-là de surveillance où on voit les deux petites filles, là, vraiment juste à côté. Puis il faut aller les voir pour comprendre à quel point elles ont été proches. Une balle perdue, une petite erreur, elles auraient pu faire partie des victimes. Et là, ce matin, dans le journal, on nous parle d'une de ces fillettes-là qui se dit traumatisée, qui dit qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit. Elle a peur quand elle voit une voiture qui ressemble à la voiture du tireur passer dans leur rue. Notre collègue de TVA a aussi parlé à la grand-mère des fillettes. On peut écouter ce qu'elle avait à dire.
Quand c'est arrivé, elles pleuraient. Elles sont rentrées dans la maison, ont fermé tous les rideaux, barré les portes. Et puis, il y a deux policiers qui se sont occupés d'elles. Puis, ils avaient un chien aussi pour les distraire.
Ouais, pour les aider un peu, espérons qu'ils vont pouvoir avoir le soutien psychologique nécessaire parce que c'est le genre de situation assez traumatisante. Sinon, du côté de l'Ukraine, on continue de suivre le conflit. Du point de vue géopolitique, on a des nouvelles de la Finlande qui se rapproche de l'OTAN. Le président, la première ministre de la Finlande se sont dit favorables à une adhésion sans délai à l'OTAN, donc à l'alliance du traité de l'alliance du Nord, pour justement rejoindre ce groupe-là, fort probablement être plus protégé, comme si la guerre finalement déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine les a poussés du côté de l'ennemi russe. Donc ils ont annoncé ça aujourd'hui, ils vont donner davantage de détails dimanche. Sinon, Alex, tu veux me parler d'un premier procès là en Ukraine pour crime de guerre.
Ouais, c'est un soldat russe de 21 ans, Vadim Chichimarin, qui va être jugé pour crime de guerre en Ukraine et homicide volontaire. Puis c'est le premier procès là, avec ce chef d'accusation là précisément de crime de guerre. Depuis le début du conflit en Ukraine, Vadim est accusé d'avoir tiré de la Kalachnikov par la fenêtre d'un véhicule qui passait sur un civil de 62 ans qui était non armé. Tout ça en lien avec une histoire de vol de voiture. Cet homme-là de 62 ans aurait été témoin d'un vol de voiture par des soldats russes. Et avant qu'il ne puisse témoigner dans cette affaire-là, on l'aurait abattu de sang-froid. Il risque donc la prison à vie s'il est reconnu coupable.
Sinon, même une question politique provinciale. Le torchon brûle entre François Legault et Justin Trudeau autour du chemin Roxham. Hier, François Legault a été assez ferme en demandant au gouvernement fédéral de fermer le chemin. Et surtout, en disant, accélérez donc le traitement des demandeurs d'asile de ces dossiers-là, parce que c'est long, ça prend 14 mois, et pendant ces 14 mois-là, c'est le Québec qui doit, avec tous ses services, accueillir et soutenir ces gens-là. Ça prendrait davantage d'aide, du moins davantage de travail de la part du ministère de l'Immigration du Canada. Tandis qu'à Ottawa, on dit que le système de l'immigration fonctionne, qu'on est en train de négocier avec les États-Unis. On peut écouter François Legault et Justin Trudeau, là.
Actuellement, il rentre plus de 100 migrants par jour. Ce que ça veut dire, si vous faites une règle de trois, là, ça voudrait dire plus de 36 000 migrants par année. C'est inacceptable, c'est impossible. Mais le problème, c'est le délai de traitement qui n'a pas d'allure au gouvernement fédéral. Plus de 14 mois avant qu'on étudie le dossier, qui ajoute des employés, qui fasse ce qu'il y a à faire, mais ça n'a pas de bon sens.
On a un système rigoureux qui va continuer de faire son travail.
Sinon, on avait le directeur de la santé publique, Luc Boileau, hier, qui a confirmé que dans deux jours, en fait le 14 mai, les masques vont tomber. Donc, on maintient la suspension, la levée de l'obligation de porter le masque dans les lieux publics. Mais on avait aussi la vérificatrice générale qui a publié un rapport assez accablant sur l'équipement de protection et le fait que le Québec n'était pas prêt, que le Québec n'a pas pris au sérieux les avertissements de l'Organisation mondiale de la santé. Puis aussi qu'on nous disait un petit peu n'importe quoi. Là. On a dépensé, on a gaspillé près d'un milliard de dollars pour acheter de l'équipement de protection parce qu'on n'en avait pas. Elle dit on aurait dû prévoir, soit avec des réserves, soit avec des fournisseurs capables d'en fournir. Puis je me souviens qu'on était au début de la pandémie, puis tout le monde nous disait non, inquiétez-vous pas, on en a assez, C'était faux. Je comprends qu'on n'est pas ici pour réécrire l'histoire, mais en même temps, ça vaudrait la peine de savoir ce qui s'est passé pour que la prochaine fois, on puisse savoir comment réagir. On peut d'ailleurs écouter la vérificatrice générale.
Il aurait dû prévoir l'imprévisible, je vous dirais. Donc, s'assurer soit qu'on a des réserves, soit qu'on a des fournisseurs qui peuvent nous les fournir. Des vérifications qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites.
Guylaine Leclerc, vérificatrice générale du Québec. Sinon, Alex, amène-nous en Corée du Nord pour parler de la COVID. Là, ça a l'air qu'il y aurait eu un premier cas et donc qu'il va finalement y avoir, on va finalement mettre en place des mesures pour protéger les gens contre la COVID?
Ouais, ce qui a été ordonné, c'est des mesures dites de confinement national, puis c'est ordonné par Kim Jong-un. Et tu le dis, c'est un premier cas de COVID-19 en Corée du Nord rapporté. Hein. La distinction est importante parce que depuis le début de la pandémie, évidemment, on n'a aucune idée vraiment ce qui se passe en Corée du Nord. Hein. C'est un pays qui est extrêmement hermétique. On n'a pas beaucoup d'idées de ce qui se passe de l'autre côté des frontières. Mais un premier cas rapporté voudrait dire, selon plusieurs experts, qu'en fait, la situation de santé publique s'est quand même dégradée pour qu'on soit rendu à en reconnaître un. Donc, il va y avoir toutes sortes de mesures de confinement, de segmentation du travail qui ont été demandées par Kim Jong-un. Il n'y a aucun des 25 millions d'habitants de la Corée du Nord qui est vacciné. Il n'y avait pas à accuser donc un seul cas de COVID depuis le début de la pandémie. Mais donc ce premier cas pourrait en fait en cacher beaucoup d'autres, surtout qu'il y a eu des images dans les derniers mois de grands défilés militaires qui ont eu lieu à Pyongyang dans lesquels il n'y avait personne de masqué.
Sinon, des nouvelles scientifiques, il y a une greffe assez inusitée qui est racontée dans le Journal de Montréal. C'est un homme qui a perdu son pouce dans un accident de travail. Là, il disait, ben là, je peux plus rien faire, ma main, je peux plus m'en servir, j'arrive pas à prendre ma petite fille dans mes bras. Et là, il s'est fait greffer son gros orteil du pied gauche en remplacement de son pouce. Ça a pris 14 heures de chirurgie. Et là, finalement, Hugo Desnoyers, c'est l'homme qui a reçu cette chirurgie-là, dit « Enfin, je vais pouvoir prendre ma fille. » Puis à la fin, il fait une petite blague en disant « Inquiétez-vous pas, au cours des prochaines années, je n'aurai pas le temps de me tourner les pouces. » Mais sincèrement, ce que la science peut faire aujourd'hui, c'est assez fascinant. Puis on devrait en avoir un autre exemple vers 9h quand on va avoir les nouvelles photos. On nous annonce des photos assez impressionnantes, révolutionnaires même, qui ont été prises par le télescope Horizon. On pourrait avoir une photo d'un trou noir, celui qui est au centre de notre galaxie. Alors, pour les petits geeks d'astronomie ou simplement à ceux qui capotent un peu et qui se disent qu'on est tout petit sur cette Terre, eh bien, ça pourrait être une annonce assez intéressante à suivre vers 9h. Sinon, du côté des, ben, en fait, je vais dire de la baleine, mais là, finalement, on est rendu à des baleines à Montréal.
Ouais, un deuxième petit rorqual qui a été aperçu dans le fleuve, là, à Montréal, hier, vers 12h30, près du quartier Maisonneuve. Ça a été confirmé, là, par le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. On a plus d'informations également sur le premier petit rorqual qui est là. Comme on s'y attendait, c'est un jeune, on estime, qui est de moins de 2 ans, mesure 3,4 mètres de long. Et il continue à faire du surplace un peu, il est dans le gros courant très fort et se promène, pour l'instant, semble en bonne santé. Et c'est rarissime qu'il y ait des baleines qui remontent jusqu'à Montréal. Et là, ça en fait deux petits rorquals. On n'a pas beaucoup d'informations sur le deuxième qui est là, mais on confirme qu'il est bel et bien sur place. Pour l'instant, leur santé va bien, mais ça pourrait être appelé à se détériorer bientôt, malheureusement, parce que l'eau douce est toxique pour ce genre d'animal-là s'il y a exposition prolongée. On exclut pour l'instant là, de devoir intervenir pour leur faire peur et les contraindre à rebousser chemin, mais ça pourrait devenir une option dans le futur parce qu'on veut éviter là, à tout prix que ces deux animaux-là décèdent ici dans les eaux à Montréal.
Bon, puis parle-moi de la Ligue nationale. Il y avait des matchs encore hier.
Trois matchs maintenant que l'Avalanche a déjà triomphé. Les Rangers qui ont rebondi et évité l'élimination 5-3 contre les Pingouins de Pittsburgh. C'est donc 3-2 dans la série. Et malheureusement pour les Pingouins, Sidney Crosby a été blessé à la tête à la deuxième période et n'est pas revenu dans le match. Donc, il faudra suivre son état de santé. Les Panthers ont fait une remontée de 5 buts contre les Capitals de Washington qui menaient 3-0 en mi-match. Et donc, ont pris les devants 3-2 dans la série, marque de 5-3. Les Flames de Calgary, 3-1 contre les Stars pour prendre les devants eux aussi 3-2.
Alex, bonne journée. Mets de la crème solaire.
Salut.